Il faut faire le bilan de la prohibition, et le bilan de la prohibition, c'est un échec total. Je crois qu'on a une classe politique qui est extrêmement médiocre, qui fait preuve de manque de courage, pour pas dire de lâcheté, quant à ces questions-là. Plus on rapproche les élections, et plus les politiques perdent leur courage quant à ce genre de positionnement. Moi, la candidate qui était en face de moi n'a rien trouvé de mieux pour essayer de me disqualifier, de me dire « Mais vous, monsieur Bensada, vous êtes pour la légalisation du cannabis ?» Je lui ai dit « Ben oui !» J'essaie de pas faire l'autruche, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a un problème, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, j'essaie surtout de trouver la solution pour qu'on puisse vivre harmonieusement. C'est cette hypocrisie-là qui fait que, politiquement, on n'arrive pas à passer le pas. Il y a une irresponsabilité des responsables politiques par rapport à cette question-là, qui est une véritable lâcheté. Parlons Ghana.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités, des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Mohamed. Mohamed, est-ce que tu es en forme ?
J'essaye. En forme de quoi ? Je sais pas, mais oui, en forme.
Non, tu m'as l'air en forme. Vraiment, tu m'as l'air en forme. J'ai la chance de t'avoir en face de moi aujourd'hui. Donc, Mohamed Bensada, tu es ancien candidat LFI, donc la France insoumise, dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône. Tu es fondateur de l'association Quartier Nord, Quartier Fort, du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Tu es aussi auteur du livre Le Glyzit, excuse-moi pour l'accent, pour une légalisation sociale du cannabis et de ses usages, paru le 15 décembre 2022. Il est récent, je l'ai dans les mains, il est beau. Tu as écrit ce livre parce que tu es confronté depuis de nombreuses années au drame qui frappe les familles des quartiers populaires, aux violences qui accompagnent le commerce illégal des stupéfiants, du cannabis en particulier, et tu as pu constater que les mesures répressives et policières, loin d'être efficaces, ne font en fait que rajouter de la violence à la violence et du mal-être au mal-être. Pour toi, légaliser le cannabis pourrait endiguer la violence, stopper le fléau des trafics de drogue et diminuer le nombre d'assassinats dans les quartiers nord, et notamment à Marseille, le lieu où tu vis. Aujourd'hui, Marseille est dans la place sur Parlons Cana. Moi, j'ai plein de questions à discuter avec toi, on va échanger sur plein de sujets, j'ai vraiment hâte, et surtout aujourd'hui, je te le dis avant, je vais un peu te titiller, je vais un peu te poser des questions qui vont être bien sûr à l'inverse de ce que je pense, mais au moins tu vas pouvoir mettre des arguments violents, parce que je sais que tu as l'habitude des combats politiques. Mais avant tout ça, j'aimerais que tu te présentes humainement, politiquement aussi, qui tu es, sans parler de cannabis, sans parler de ta relation avec le cannabis, parce qu'après on va en parler pendant un long moment. À toi la parole, Mohamed, rayonne-nous de ta connaissance.
Oui, tu me mets la pression là.
Direct.
Merci Mathias de me recevoir. Alors l'honneur il est pour moi, hein. Donc de me recevoir, merci à toi, merci à l'équipe de Parlons Cana, merci pour le travail que vous faites, qui va dans le sens de ce que je fais moi aussi par ailleurs sur la légalisation du cannabis, et qui est un travail, alors je ne sais pas si on utilise un mot péjoratif, ce serait un travail de vulgarisation, mais je crois que c'est plus une approche pédagogique et qui quelque part anticipe ce que moi je prône dans ce livre que je viens d'écrire, et qui est l'ouverture d'un vrai débat. Et on ne peut pas débattre de choses si on reste au café du commerce, comme on le fait depuis 30 ans sur la question de la légalisation du cannabis. Bon, je vais faire un truc que j'aime pas, donc tu me demandes de me présenter, de parler de qui je suis. Bon, bah, écoute, j'ai 54 ans, ça fait 54 ans que je me pose la question de qui je suis, donc je vais pas te répondre aujourd'hui. En tout cas, oui, je suis marié, père de famille, je suis manipulateur en électroradiologie médicale, je travaille à la Timone. Donc à la radio okay. et au scanner, ça c'est le côté professionnel. Après, du point de vue associatif et politique, tu as cité les associations dont je fais partie, hein, le syndicat des quartiers populaires de Marseille, quartier Nord, quartier Fort, qui est au cœur de cet engagement particulier hein, autour des questions liées au cannabis. Et bien entendu, militant de la France insoumise. Hein, tu as rappelé qu'effectivement, j'ai été récemment candidat pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur la troisième circonscription de Marseille, et où malheureusement, arrivé au premier tour, j'ai échoué au second face au Rassemblement national. Donc, ouais, le combat politique, j'y suis habitué. Bon, il y a des fois où on aimerait que ça se passe de façon un peu plus souriante, mais bon, on est toujours là et on continue à se battre.
Je vais te challenger sur la politique, de toute façon, parce que là, évidemment, tu as perdu face au Rassemblement national. On va en parler. Donc, merci pour ta présentation. Moi, j'aimerais, avant qu'on aille dans le vif du sujet, mais c'est dans quelques minutes, quelle est ta relation avec le cannabis? Pourquoi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important pour toi jusqu'à écrire un livre sur le sujet? Voilà. Comment le cannabis est rentré dans ta vie et pourquoi il est si important?
Alors, il faut qu'on soit complètement transparent là-dessus. Et d'ailleurs, moi, j'ai une approche pragmatique hein, de ce débat-là. Je ne suis pas un consommateur, je ne suis pas un usager. Oui, j'ai dû me retrouver avec un ou deux joints dans ma vie entre les doigts. J'ai une difficulté avec la cigarette déjà, tu vois, donc je ne sais pas fumer. Je pense que j'ai eu une expérience en quatrième ou cinquième où j'ai failli me retrouver en réanimation. Donc, du coup, je sais pas fumer. Ouais, je ne sais pas fumer. Donc, j'ai une difficulté avec ça. Mais pour autant, ma vraie relation, elle est d'une part politique, avec une approche pragmatique de cette problématique-là. Et j'essaie de ne pas faire l'autruche et de ne pas me dire bah, ce problème n'existe pas et de toute façon on va le combattre par la répression ou par la prohibition, qui est un non-sens absolu, mais on en reparlera. Et d'autre part, j'ai une relation, j'allais dire fantasmée, mais non, une relation romantique avec le cannabis. Moi, je l'explique dans le livre où je dévoile un petit pan de ma personnalité. Je suis un grand amateur de musique et notamment de reggae et de rap. Et bah, le cannabis dans le reggae, pas la peine de
très présent.
Voilà, très présent. Mais alors,
on a eu Sinsemilia sur Parlons Cana. Hein.
Excellent, Sinsemilia. Alors ça, c'est un des meilleurs groupes français de reggae. Mais alors, pour sortir des clichés, la relation entre le reggae et le cannabis, c'est pas la, le, tu sais, l'image d'Épinal avec les énormes joints, les types. Non, les Rastas ont une relation spirituelle avec le cannabis. Hein, c'est la ganja, pour eux, c'est un outil de transcendance. Ça leur permet, entre guillemets, de quitter cette dimension et cette enveloppe charnelle pour se rapprocher de ce que estime un état de transcendance spirituelle. Donc, ouais, si on sort de ce côté-là, ma vraie relation avec le cannabis, c'est une relation un petit peu fantasmée parce que je me suis identifié à partir du moment où je suis tombé dans amoureux des textes de Marley, très rapidement. Hein, premier texte que j'ai traduit, c'est Zimbabwe, donc j'invite les auditeurs à lire ce qu'il raconte, et il commence par « Every man got the right to decide his own destiny ». Bon, ça me parlait énormément, moi, en tant que petit gamin maghrébin des quartiers populaires de Marseille dans les années 80, entendre un gars à Kingston dire quelque chose que je ressentais par toutes les fibres de mon être, ça m'a immédiatement connecté à ça. Et puis bon, évidemment, parfois on peut se reconnaître selon son origine, son extraction, populaire ou pas, sur différents modèles. Moi, ce qui me faisait rêver, ce à qui je voulais ressembler, même si j'avais pas les locks et les joints entre les mains, c'était les chanteurs de reggae qui effectivement défiaient le système en place, hein, le shit system comme ils disent.
Ouais, je comprends. Alors pour les locks, je confirme. Hein. T'es loin de les avoir ouais. Là.
Non, mais t'es pas gentil. Bah, j'aurais dû t'en ramener une photo de moi. J'en ai eu.
Pas plus jeune, c'est ça?
Ah oui, plus jeune, oui.
Non, mais tu peux le faire sur la barbe.
Hein, c'est si ça.
Tu
on va essayer.
Ok, c'est génial. Donc je comprends sur cette partie la relation avec la musique, ce qui t'a connecté avec. Mais évidemment, là, on parle de tes associations. On parle de ton approche pragmatique, on parle d'un constat social et politique sur le cannabis. Toi, tu t'as parlé en introduction d'un débat politique. Avant qu'on rentre sur la partie politique, sur la partie quartier, j'ai bien envie qu'on le sépare. Est-ce que tu peux me parler, quel est selon toi le bilan de la prohibition aujourd'hui? Qu'est-ce que la prohibition a amené, à créer? Quel est le monstre, mais tu vois, je n'arrive pas à être objectif sur ça, mais je vais essayer d'être objectif. Qu'est-ce que ça a créé en France, la prohibition?
Il faut revenir à l'origine de la prohibition. La prohibition, peu de gens le savent, mais jusqu'au décret Mazo, qui était le rapporteur de la loi de 1970, hein, un proche de Pompidou, il me semble, elle le légalise. Le cannabis était légal en France. Hein. Donc, c'est à partir de 70 que cette drogue a reçu, avec d'autres drogues, un traitement spécial, un traitement qui conduisait l'usage et la possession et la vente, bien évidemment, de ce produit-là dans l'illégalité. Et pour revenir à l'origine, il faut absolument revenir aux interviews des gens qui ont pondu cette loi. Hein. On est juste après mai 68. 68. Et dans l'imaginaire post 68, et donc malheureusement, on en revient toujours à la politique, mais la vague bleu horizon qui submerge l'Assemblée nationale après mai 68, c'est-à-dire à droite qui revient en force, dans leur tête, mai 68 n'était pas un fait politique, social, la convergence des luttes entre les étudiants et les ouvriers, etc., etc., et toutes les revendications qui tenaient aux conditions de vie et puis même à l'ambiance générale, hein, la liberté tout simplement. Non, ils avaient réduit ça à une espèce d'hystérie apportée par la jeunesse qui était une jeunesse complètement droguée. Et clairement pour eux, ils faisaient le lien entre mai 68 et la consommation des drogues, notamment du cannabis. Donc il y a déjà une analyse qui est foireuse et qui nous fait plonger directement dans ce qui est à mon sens le problème principal quand on appréhende le débat autour de la légalisation, c'est-à-dire l'approche morale ou moraliste. Moi, j'aimais pas de jugement de valeur. Tu pourras lire dans le livre et les auditeurs aussi, enfin ceux qui s'intéresseront à ce que j'ai écrit, que moi je suis pas là pour dire, bah, attendez, tous mettons-nous à fumer du shit, etc., etc. Pour autant, je sais qu'il y a des gens qui fument du shit. Et
beaucoup.
Et beaucoup.
On parle de 5 millions, plus de 5 millions en France.
Et donc, tu m'interpellais sur le bilan de la prohibition, mais c'est ça. Entre 70 et 2023, aujourd'hui, ça a explosé. La prohibition conduit, entre guillemets, une explosion de la consommation non encadrée. Et quand je dis non encadrée, c'est qu'il n'y a pas de campagne de prévention digne de ce nom, il n'y a pas de suivi de la qualité des produits, il y a une montée en puissance des taux de THC, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais entre ce qui se faisait dans les années 80 et ce que consomment les jeunes aujourd'hui, on est passé de... Alors, la double zéro à l'époque, hein, dans les années 80, c'était quelque chose entre 16 et 17% de taux de THC, et on en fumait très très peu parce que les gens disaient c'est insupportable. Aujourd'hui, on est à 30, voire parfois 40. Ce qui mérite une véritable étude. Et on ne peut pas mener d'études sur quelque chose qui n'est pas légal parce qu'il y a des rapports qui sortent, qui sont encore très confinés en termes de quantité parce que c'est illégal, mais qui mettent en avant la relation de cause à effet entre les maladies psychiatriques, notamment dans nos quartiers. Par exemple, à Édouard-Toulouse, les gens qui y travaillent te disent oui, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'effectivement, ils fument de plus en plus. Et surtout, mon approche, c'est de dire que la prohibition réduit la problématique politique de la légalisation du cannabis à un problème de sécurité. C'est faux, je crois que c'est d'abord un problème de santé publique et qu'il faut l'aborder par ce biais-là pour essayer de faire le mieux. Quand tu me poseras la question sur ce que nous réussissons nous à faire en termes de consommation du cannabis pour les jeunes entre 15 et 25 ans, quand tu fais le comparatif avec le Portugal qui lui a dépénalisé, on en dira un mot aussi, depuis 2000, mais on est à des kilomètres derrière. On est les champions d'Europe, peut-être du monde, chez les jeunes en termes de consommation du cannabis. Donc moi, je veux bien, hein, je ne suis pas le seul à le dire, il y a une mission parlementaire qui a été menée transpartisane, hein, donc portée en plus par des gens de l'AREM et je crois que le rapporteur était chez les Républicains, qui aboutit avec comme exergue, il faut faire le bilan de la prohibition et le bilan de la prohibition, c'est un échec total. Voilà. Donc
c'est un échec d'un point de vue
sécuritaire, sanitaire, économique, social, sur tous les plans.
Tous les plans. Échec total à 100%. Donc aujourd'hui, on est face à ça, on parle de politique, donc toi, t'es engagé politique. Depuis combien de temps t'es engagé dans la politique?
J'ai toujours
milité,
été politisé de façon active, ouais, depuis 25 ans à peu près.
Ok, donc on est très critique, les Français sont très critiques sur la politique. Justement, on se dit, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue politique, puisque j'ai parlé il n'y a pas si longtemps avec une personne qui était au Canada, et donc tu le sais qu'ils ont légalisé au Canada. On a des rapports détaillés de l'impact qu'a eu sur la population Canada. Il n'y a pas eu du tout une explosion de consommation, bien au contraire, voire même une baisse de consommation qui est en place, c'est les statistiques qui sont revenues là-dessus. Beaucoup, une baisse aussi de consommation des produits alternatifs, j'avais dit, puisqu'il n'y a plus la connexion avec le dealer.
Tu peux citer l'exemple de l'Uruguay, des États-Unis où la consommation n'explose pas, au contraire, du Portugal aussi, hein, même si c'est une dépénalisation et pas une légalisation.
Ouais, Espagne, où on a aussi d'une autre façon.
L'Espagne, ils sont encore sur un statut un petit peu particulier, mais oui, ils vont dans le bon sens.
Ils vont dans le bon sens. Et donc, la Thaïlande aussi. La Thaïlande qui allait.
Ça, je n'étais pas au courant, mais bon.
La Thaïlande a légalisé il n'y a pas si longtemps et c'est la folie en Thaïlande.
Je crois que le Maroc allait légaliser aussi.
Qui est on the way.
C'est ça, il me semble.
On the way là-dessus. Bref. On voit qu'autour de nous, il y a plein de choses. En France, on est un pays qui est très politisé quand même par rapport à d'autres pays. On a vraiment tout le monde, la politique, c'est un point important dans le repas de famille qu'on a notamment. Et on est très critique. Pourquoi aujourd'hui, toi qui es politisé, pourquoi aujourd'hui, comment t'expliques le fait que ça ne bouge pas? Et pour revenir sur l'introduction que je voulais faire, on m'a dit qu'au Canada, le sujet du cannabis a été déterminant aussi pour l'élection, sur les dernières élections qui sont passées. Est-ce que toi, tu penses que ça pourrait être un élément déterminant? Je rajoute une question là-dessus, mais un élément déterminant sur les prochaines élections ou pas?
Je vais essayer de ne pas m'éparpiller, mais il y a tellement de choses à dire en fait. Moi, je crois que Ouais, tu m'as invité pour que je parle cash, donc je vais parler cash. Hein. Je crois que
Vas-y.
il y a souvent cette espèce de sagesse proverbiale qui dit oui, on a les dirigeants ou les responsables politiques qu'on mérite. Je crois pas. Je crois qu'on a une classe politique qui est extrêmement médiocre, qui fait preuve de manque de courage, pour pas dire de lâcheté quant à ces questions-là. On est prêt à parler de choses qui sont pas au cœur de nos vies, ou en tout cas dans le quotidien des Françaises et des Français. Par contre, la question du cannabis ou de la légalisation, qui pourrait faire changer la vie de millions de Françaises et de Français, qui pourrait améliorer notre santé physique, psychologique, etc., etc., surtout notamment pour les publics jeunes, ben c'est une question qui reste taboue. Je vais te citer encore une fois cette mission, ce rapport parlementaire de 2020, porté par Caroline Janvier, il me semble. Hein.
Oui.
Retiens bien, parce que pour que je cite des gens de La République En Marche, faut se lever tôt le matin. Mais bon, quand ils font des... bon, je ne vais pas le dire. J'arrive à pas le dire. Mais bon, en tout cas, là, il y a un travail en commission qui a été fait, transpartisan, et qui est porté par Caroline Janvier, et donc le rapporteur, dont j'ai oublié le nom, qui est chez Les Républicains. Ils ont concomitamment mené une mission d'enquête, tu vois, une espèce de sondage, mais sondage mouse costaud, c'est-à-dire que ça a été fait quand même à l'échelle d'une enquête et d'une interrogation sur près de 250 000 personnes. Ça commence à devenir significatif, tu vois, c'est pas le sondage pré-élection où
Oui, t'as 2000 personnes, c'est ça.
voilà, où tu as 2000 personnes qui vont te dire oui, non, machin, etc. Non, non, là, on est quand même sur 250 000 personnes qui répondent. Et j'invite les gens à aller voir les résultats de cette enquête. Et ça te donne le décalage entre la maturité de l'opinion publique française et ce qu'en font les responsables politiques. Pour être clair, à chaque fois qu'on est loin des élections, hein, c'est inversement proportionnel, les gens reviennent à la raison. Je parle du corps politique. Hein, et tu dis, oui, non, mais il va vraiment falloir faire quelque chose, la prohibition, on n'en peut plus. Regarde, 36 morts à Marseille, des gens qui sont dans l'isolement, des quartiers qui sont bloqués, etc., etc. On tape des poings sur la poitrine, on fait des roulades, etc. Et puis, plus on rapproche les élections, et puis les politiques perdent leur courage quant à ce genre de positionnement. Moi, la candidate qui était en face de moi n'a rien trouvé de mieux pour essayer de me disqualifier, de me dire, mais vous, monsieur Bensada, vous êtes pour la légalisation du cannabis. Je lui ai dit, ben oui, et si vous voulez qu'on en parle, on en parle, mais ça prend la totalité de l'émission. C'est pour te dire à quel point ces gens sont pas conscients de l'évolution des mentalités et des mœurs des Français. Je veux dire, moi, en tant que responsable politique, hein, pardon de le dire comme ça, hein, j'ai oublié dans mon identité que tu me demandais de dévoiler, de dire que je me considère et je me revendique comme militant politique des quartiers populaires. Mais j'essaie de pas faire l'autruche, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a un problème, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, j'essaie surtout de trouver la solution pour qu'on puisse vivre harmonieusement. Et pas de me dire, bon, mais attends, je tourne la tête, ce problème n'existe pas, ou alors on va taper sur les gens pour soi-disant les réprimer. Si tu voulais faire ça, déjà, il faut avoir le courage de ce genre d'ambition-là et faire la guerre à la drogue, contrairement à ce que pense Darmanin, je sais même pas s'il le pense, hein, c'est juste une posture, mais contrairement à ce qu'il dit, en tout cas, ça se combat de façon supranationale, internationale, et sûrement pas en allant emmerder les usagers, les consommateurs ou les petits dealers de quartier, tu vois. Donc c'est cette hypocrisie-là qui fait que politiquement, on n'arrive pas à passer le pas. Je sais moi-même par expérience que quand on est en campagne, etc., etc., y compris du côté de ma tradition politique, hein, c'est des questions avec lesquelles on a du mal. C'est des questions avec lesquelles on a du mal. Et pourtant, je crois qu'au contraire, la gauche aurait tout intérêt à restructurer son discours autour de la sécurité par le biais de ce genre de proposition-là. Mais non, on n'est pas encore.
Alors moi, j'ai ma petite idée. Je vais te dire ce que je pense. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou pas. On va venir évidemment sur la vie des quartiers. Qu'est-ce que le cannabis, comment il impacte dans la vie de quartier? Tu vois, tu prends l'exemple de notre président actuel. Il a été positionné en étant pro-légalisation au début, évidemment, sur cette partie-là. Après, il a dû tenter d'envoyer un petit peu des personnes pour voir comment ça se passe. Et il s'est dit, bon, qui vote aujourd'hui en France? Est-ce que c'est les jeunes? Non. Pourtant, eux sont majoritairement pro-légalisation, évidemment. Les personnes actives, moyennement plus. Par contre, les personnes âgées, au taquet. Donc, eux, ils votent. D'ailleurs, on a vu sur les dernières élections comment il est passé. Et sur cette partie-là, il se dit, bon, il faut que je mette un discours qui est en face des votants si je veux pouvoir réussir à mettre mes idées sur la table. Et à partir de ce moment-là, ses conseillers ont dû lui dire, bon, alors oublie la partie légalisation parce que ça ne plaît pas à ce corps justement de votants, et ce corps de votants aujourd'hui, ben, il est puissant et il est majoritaire. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas selon toi, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as ce non-courage politique vis-à-vis de cette question qui est dramatique avec tous les problèmes que ça engendre derrière?
Mais Mathias, tu as répondu à ta propre question en fait. Mais je partage complètement cette analyse. Tu disais que Emmanuel Macron, pendant même, je crois que c'était une des propositions de campagne, avait dit qu'il voulait absolument ouvrir le débat. Alors, il n'avait pas dit je suis pour la légalisation. Il avait dit je veux ouvrir le débat sur la légalisation du cannabis, etc., etc. Et effectivement, on est dans une forme de clientélisme à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de. Enfin, c'est pas du clientélisme local, quoi. Mais où effectivement, l'opinion publique est disséquée et catégorisée pour voir quelle est celle où on va être le plus, où le discours qu'on va avoir politique va être le plus rentable ou pas. Mais à contrario, et c'est là où peut-être que la gauche, les écolos doivent entre guillemets réfléchir à la façon dont ils portent ce combat-là, se dire mais peut-être que c'est aussi une manière de mobiliser les gens qui votent pas. C'est peut-être aussi faire de lance sur des campagnes à venir ou dire mais attendez, nous notre projet de société, c'est de changer le monde, en faire quelque chose de plus égalitaire, de plus solidaire, où le partage est pas il a notion qu'on met en avant bien avant la compétition. Et la légalisation du cannabis, c'est en réalité, quand tu vas au bout du bout, en tout cas la façon dont moi je l'appréhende, une mesure de justice sociale. C'est au terme, parce que tu vas sûrement me poser la question sur légalisation sociale, mais le fond du problème, c'est l'égalité des droits. Je veux dire, on veut sortir de la politique de la ville, on veut revenir aux droits communs, et on pense que par le biais de la modélisation économique qu'on mettra en place avec la légalisation sociale, on aura cette égalité des droits, bien plus que l'égalité des chances, qui reste pour moi encore quelque chose qui est de l'ordre de la poésie. Hein.
Tu vas m'en parler justement de ta vision de la légalisation, on va y venir, mais avant je voulais qu'on parle aussi de la situation dans les quartiers, parce que tu les connais très bien. Je voulais juste rajouter une petite chose sur cette discussion. Donc j'ai discuté avec Alexandre Gauthier, donc c'est l'épisode 64 de Parlons Cana. Lui, dans son analyse politique qui s'est passée au Canada, tu avais Trudeau, qui a mis effectivement dans la balance la légalisation du cannabis, qui a réussi à motiver ces jeunes à aller voter pour réussir à gagner ces élections. Donc, il a utilisé. Lui, il a mis en avant, Alexandre Gauthier, il a dit « En France, je vois que bientôt, on va avoir le Front National qui monte très fortement, tu l'as vu. D'ailleurs, voilà, tu en parleras un petit peu. Et en face du Front National, là, une des rares possibilités qu'on a de combat, c'est cette partie légalisation qui pourrait potentiellement être en face du Front National. Est-ce que toi, quelle est ta vision sur ce que je viens de te dire? Est-ce que dans les prochaines élections, on peut avoir un gars qui dit « Bon les gars, moi je vais légaliser, je vais le faire. » Et qui pourra justement être dans le combat face au Front National, qui sera très présent et très puissant?
On l'a déjà, c'est-à-dire que...
Tu vas parler de Mélenchon là?
Ben oui, je vais te parler de Mélenchon, je suis désolé. Après, et c'est pas le seul, je crois que l'AFI assume intégralement cette position. Hein. Alors après, je dis pas qu'elle est sur l'égalisation sociale, quoique pour revenir à ce qui a été fait politiquement pendant la dernière mandature, quand il n'y avait que 17 députés FI, ils ont réussi à déposer un projet de loi, bon, qui a été retoqué évidemment, hein, puisque très minoritaire, sur la légalisation du cannabis avec tout un volet social, etc. qui n'est pas forcément celui que je partage. Je pense qu'il y a du travail à faire, notamment sur l'approche de ce que ce projet de loi appelle les petites mains, c'est-à-dire les choufs, etc. Je crois que là, ils ne sont pas allés suffisamment loin dans l'analyse et dans les propositions. Mais déjà, la volonté de faire sortir la mission interministérielle, la MINDECA, de sa tutelle, qui est celle du ministère de l'Intérieur, et de la faire passer au ministère de la santé, c'est déjà un pas en avant qui est conséquent politiquement. Dit comme ça, ça peut être anecdotique, mais franchement, ça veut dire qu'on change de paradigme sur la façon dont on appréhende le problème. Mais tu me parlais de Mélenchon. Oui, Mélenchon a défendu cette position-là.
Il se mouille pas, Mohamed, en toute objectivité. J'ai suivi. Il le glisse de temps en temps comme ça sur certains types de...
Non, je suis pas d'accord, Mathias.
Moi, je l'ai pas vu se mouiller dessus. Après, je sais que c'est un sujet complexe. Pourquoi il est complexe? Parce que tu dois connaître les tenants et les aboutissants, et aujourd'hui le grand public ne connaît pas les tenants et les aboutissants de la problématique. Mais je le vois pas trop se mouiller,
bah,
vraiment.
Bah alors parce que c'est un débat, comme tu le dis, complexe, et on est dans une période où on a besoin de simplicité, qui confine aux simplistes, mais à mon avis qui est le vrai mal politique actuel, hein, c'est-à-dire qu'on répond du tac au tac. Mais Mélenchon, à chaque fois qu'on lui a posé la question, il a répondu là-dessus, hein, comme les autres tenants de l'AFI. Après, à gauche, on n'est pas tous sur la même position. Je crois que les formations... J'ai pas de bon point à donner, mais c'est juste une réalité. Les formations qui portent un discours construit autour de cette question-là, c'est l'AFI et les écolos. Pas forcément d'accord sur le modèle économique, etc. Mais en tout cas, c'est deux seules formations. Je pense que le Parti socialiste a encore des efforts à faire là-dessus. Le Parti communiste aussi. Mais oui, il y a vraiment tout un discours à porter. Et pour répondre à ta question, tu dis, il n'en parle pas beaucoup. À chaque fois qu'il a été interrogé, il a répondu. Mais tout de suite... Les éditorialistes, les journalistes sont passés à pourquoi vous avez fait tel tweet ou pourquoi vous avez... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en réalité, il faut que ça devienne un sujet qui soit porté de façon charismatique. Alors oui, peut-être que pour l'instant, y compris Mélenchon n'a pas pris la mesure de l'importance de ce combat-là, y compris stratégiquement, hein, sur ce qu'on disait, sur le cœur de cible en termes d'électorat. Mais voilà, ben, t'as pas de Trudeau en France, hein, qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Je veux dire, oui, t'as pas de Trudeau. Trudeau, quand il parle, ben oui, t'écoutes. Moi, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit, mais il a un charisme. Et puis, tu comprends que quand il défend la légalisation du cannabis, c'est pas juste un artifice électoral. Moi, j'ai entendu quelques interviews. Le gars, il est habité. Donc oui, il arrive à te convaincre. Peut-être qu'on va en avoir dans pas longtemps des gens comme ça.
T'as raison sur cette partie-là. Avant que je te pose la question de la réalité des quartiers, toi justement, tu as été challengé sur ça dans ton combat politique et dernièrement aussi. Tu l'as dit en introduction, tu as perdu deuxième tour. Quelle a été en face de toi les questions où on a voulu te piéger justement sur ce sujet de la légalisation, puisque aujourd'hui ça peut être ou quelque chose de positif dans ton combat politique et face à tes auditeurs, face aux votants, ou ça peut être quelque chose où tu peux être très facilement piégé. Raconte-nous un peu ce débat qu'il y a eu sur ce sujet.
Je vais être honnête avec toi, il n'y a pas eu tellement de débat là-dessus. Je pense qu'en réalité, les tenants de la prohibition regardent leurs chaussures là-dessus. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est pas pour flatter la communauté des auditeurs ou des gens qui s'intéressent au podcast Parlons Canada, mais ils ont compris qu'on avait raison. Déjà, ils travaillent pas leur argumentaire. Quand tu te retrouves avec des gens qui te ressortent des conneries style oui, mais si on légalise le cannabis, les gens vont se mettre à consommer de l'héroïne, de la cocaïne. C'est une non-connaissance absolue de ce qu'est l'usage de la drogue. Hein. Je veux dire,
Et dans les faits, c'est l'inverse en plus, hein. C'est déjà prouvé.
Mais absolument, mais j'ai même pas envie de balader les gens, enfin, en tout cas de les saouler avec des statistiques. Il n'y a aucune étude qui prouve les glissements de marché entre le cannabis. Je veux dire, quand tu fumes du shit, c'est parce que tu aimes fumer du shit ou de l'herbe. Ça n'a strictement rien à voir avec l'héroïne. Et même économiquement, ça n'a strictement rien à voir. Pardon d'être aussi trivial, mais tu vas acheter 2 grammes de cannabis, c'est une barate. Ça va te revenir entre 25 euros, tu vas acheter un pochon de cocaïne, y compris de la cocaïne de synthèse, en une prise, c'est 15 euros. Je veux dire, et avec tes 2 grammes, si tu es un consommateur raisonnable,
Dans 15 euros, tu me parles pour.
25 euros la barate à peu près.
D'accord.
25 euros.
Okay.
25,
Moi,
25
j'étais
euros.
plus sur les 50-60 euros le gramme. Hein.
Pour le cannabis?
Non, non, je te parle pour
Ah non,
la
non, je
coque.
parle la prise unique, c'est 0,25 grammes.
D'accord, ouais, tu
Oui,
parles pour un trip.
le pochon, tu sais,
Ok.
ce qui se vend dans les quartiers. Parce
Ok.
qu'on dit, parce que moi, on m'interpelle souvent, non, mais Mohamed, oui, d'accord, le cannabis, mais c'est plus ça le problème. Je dis, mais déjà, on n'est pas sur le même substrat de population.
Et
Je veux
de
dire,
prix.
il y a 1,5 million de consommateurs quotidiens en France de cannabis. Il y a 18 millions de Français qui ont consommé dans leur vie du cannabis. Vous vous rendez compte de la population que ça représente? Ça veut dire que c'est 40% de la population française a consommé du cannabis. Alors que la cocaïne, quand tu rajoutes la cocaïne, l'héroïne et les autres drogues de synthèse, c'est entre 250 et 300 000 personnes qui en consomment de manière pas régulière, quoi, tu vois.
Épisodique.
Donc on n'est pas du tout sur la même sur la déjà sur la même population, sur la même cible, et on n'est pas du tout sur un problème de santé publique que pose le cannabis. La réalité est là. Donc en réalité, j'ai pas été interpellé sur ces questions-là. À part essayer de te disqualifier très rapidement en te disant oui, mais vous êtes pour. En gros, Mohamed, toi et tes copains, vous êtes des laxistes, vous voulez lâcher en ligne. On est au discours de Gaulle, quoi, tu vois. Mais même moi, si j'ai perdu, c'est pour des raisons politiques, hein, où effectivement, par exemple, la candidate de La République En Marche, qui était la députée sortante, a refusé d'appeler à voter pour moi. Hein. Après, c'est sa responsabilité, hein. Elle fait élire le Rassemblement national. Les gens ne se mobilisent pas suffisamment dans les quartiers pour voter, etc., etc. Mais ce n'est pas forcément sur la question du cannabis. Hein. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Ça peut rajouter dans l'imaginaire et dans le folklore des fachos l'idée qu'en plus d'être arabe avec une barbe, etc., etc., ce gars-là, il est dangereux parce qu'il prône la légalisation du cannabis. Mais je pense qu'à mon avis, ça, c'est à la marge. Même eux savent très bien que autour d'eux, leurs petits voisins, leurs familles, leurs enfants sont amenés à consommer du cannabis. Donc ils peuvent venir faire les marioles à la télé en faisant comme Eric Ciotti en disant jamais on va faire la guerre. Si ça se trouve, dans sa famille, il a des fumeurs de shit, quoi. Donc quand ça devient un fait culturel, quand ça devient un fait social, il faut prendre à bras le corps la question et la traiter en tant que responsable politique. Et j'en reviens à ta question très, très pertinente que tu as posée tout à l'heure sur pourquoi le débat ne se met pas en place. Oui, il y a une irresponsabilité des responsables politiques par rapport à cette question-là, qui est une véritable lâcheté, parce qu'ils continuent à considérer que on va faire voter les personnes âgées et que les personnes, mais même les personnes âgées, ça évolue cette question-là.
D'accord. Et donc, comment on peut sortir de ça? C'est-à-dire que concrètement, selon toi, quelle est la stratégie, quelle est la solution? Est-ce que c'est qu'une solution politique, mais comment on peut vraiment mettre ce sujet sur la table, faire un vrai débat politique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses bougent à ce niveau-là?
Bah, faire ce que tu fais toi avec ton émission, qui est une émission qui au final fournit pas mal d'outils de connaissances, et donc c'est un vrai outil pédagogique et de vulgarisation au sens positif du terme, c'est-à-dire que les gens vont parler de choses qu'ils comprennent, qu'ils connaissent. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en écoutant les gens qui ont une expertise ou une expérience. et qui vous explique les choses comme elles se passent, pas comme vous les imaginez vous. Ah, parce que quand je fais une petite digression qui n'est pas une finalement. Tu liras dans le livre ce que je dis sur l'histoire du cannabis, etc. Ça, sur l'histoire du cannabis. Et je crois que il y a deux problèmes. Il y a l'approche morale. Il y a une espèce d'a priori culturel aussi sur le cannabis. Je vais le dire de façon très trash. Hein. J'assume mes propos. Autant, il y a des drogues qui sont licites. Tu vois, l'alcool, les anxiolytiques, et on les accepte parce qu'on dit, bon, ben voilà, ça, c'est de la drogue, mais c'est bien de chez nous. Autant le cannabis reste la drogue des bougnoules. Je le dis très clairement. Et ça vient de très, très loin. Hein. Ça vient de très, très loin. Hein. Je fais le rapprochement avec les croisés, simplement. Hein. Tu sais, la façon dont ont été en contact avec les disciples du vieux de la montagne. La fameuse secte des assassins, qui eux consommaient du cannabis, c'était un truc sectaire, etc., etc. Et qui ont propagé cette idée, qui l'ont transmise de génération en génération, jusqu'à la campagne d'Égypte avec Bonaparte, qui lui aussi était furieux adversaire du cannabis, parce qu'il estimait que c'était une drogue qui rendait fou, etc., etc. Sachant qu'à l'époque, les gens ils se blindaient la tête à coups d'absinthe, qui est beaucoup plus dangereuse que le cannabis. Et ça arrive jusqu'à nos jours où on considère cette drogue comme étant une drogue qui, en plus, a ce côté halogène, tu vois. Halogène, pas avec un H, un A, deux L-O-G-L. C'est-à-dire étrangère, tu vois. Donc, la menace culturelle de destruction du patrimoine, tu vois. Donc, on y met même ça. On y met même ça. Et pour répondre à ta question de comment on fait, mais tu vois, là, on...
Alors, attends, est-ce que je peux te challenger sur ça? Parce que, ouais. En gros, on parle quand même d'un produit qui vient majoritairement du Maghreb. Tu me dis si je dis une bêtise ou tu penses que c'est pas
non,
le cas.
Non, c'est vrai.
Et qui est souvent distribué via des quartiers qui sont majoritairement avec des personnes qui viennent de l'étranger. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce rattachement à ce que tu disais tout à l'heure.
Dans les années 70, c'était pas le cas du tout.
Là, c'est nouveau, ça.
La structuration autour des réseaux et puis la violence consécutive à l'installation des réseaux dans les quartiers populaires, notamment à Marseille. C'est devenu un phénomène prégnant et même, j'allais dire, structurant dans les quartiers, dans certains quartiers, à partir de la fin des années 2000, début des années 2010. Donc, le rapport de cause à effet, il est pas direct. Et puis, la propagation géographique historique du cannabis, c'est d'est en ouest. Hein, c'est pas une drogue qui a poussé au Maroc. Hein, les premières traces, ça date 12 000 ans avant Jésus-Christ et c'est sur les contreforts de l'Himalaya. Hein. Donc, le fait qu'aujourd'hui, oui, le Maroc soit un gros producteur, par exemple, de cannabis, ça n'empêche pas que tu as maintenant un trafic issu d'Amérique du Sud qui est extrêmement important et qui transite, lui, par Amsterdam et les ports de Belgique. Mmh. Non, je ne crois pas que le rapport y soit là. C'est vraiment ce côté...
historique.
Pas que. Historique et folklorique. Je cite souvent le sketch de Coluche. Gérard, le hakik, c'est pas bon, tu vois. Il avait vraiment mis le doigt dessus. C'est-à-dire que c'est un mec qui est complètement bourré, qui explique à un jeune qui fume du hashish que c'est pas bien le hashish. Mmh. Voilà, on en est là.
Ok, on est encore sur ces stéréotypes, quoi. C'est ça, on est plutôt sur ça. Ok, je t'ai écarté de la question. Donc, la solution, c'était quoi? C'est là où tu allais me dire, écoute, ah oui, j'ai la solution politique.
Non, j'ai pas la solution politique. Moi, je dis que.
T'as une idée, dis-moi.
La légalisation, c'est un outil. Hein. C'est un outil parmi d'autres hein, pour arriver à la justice sociale et à l'égalité des droits. Mais si tu veux absolument. Faire de la légalisation non seulement une option stratégique, bon déjà il faut convaincre les états-majors politiques, moi je m'évertue à le faire depuis que je suis militant politique, quoi, hein. J'essaie d'expliquer que c'est extrêmement important, mais oui la solution elle est d'en faire un objet politique majeur. Aujourd'hui on se mobilise dans nos rues, on se mobilise dans les entreprises autour de la réforme des retraites, parce que c'est capital. C'est capital pour la façon dont on va pouvoir vieillir et notre relation au travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste travailler canner 64 ans parce que ça fait plaisir à des gens qui s'en foutent plein les pognes, quoi, tu vois. C'est un combat légitime. Mais je pense que l'énergie qu'on met sur la réforme des retraites, si la gauche est en capacité de produire le dixième en termes de mobilisation sur ces questions-là, crois-moi que le débat deviendrait incontournable avec effectivement ce que tu disais tout à l'heure. Quelqu'un qui se dégagera de par son charisme, par la pertinence de ses propos sur cette question-là, et qui en fera un thème majeur des futures campagnes. Mmh. Il faut l'installer dans le débat politique. Après, ça se décidera hein, démocratiquement. Moi, je suis convaincu que s'il y a des décisions démocratiques qui seront prises autour de ça, ben voilà, quoi, la prohibition sera un vieux souvenir.
C'est intéressant que tu parles des retraites, parce qu'il y a eu des études qui sont sorties. On va parler par la suite, je m'avance un peu sur la suite, mais on dit que le potentiel revenu que pourrait créer justement la légalisation du cannabis ferait en sorte que on peut financer largement le problème des retraites qu'il y a actuellement où tu as beaucoup de monde dans la rue.
Alors là, on va avoir un désaccord, toi et moi.
Ah, d'accord. Allez, vas-y.
Oui, parce que là, tu me poses la question sur la légalisation sociale. Hein. Nous, ce qu'on voyait...
Tu vas me parler de la légalisation, comment tu le vois là?
Sociale, ouais.
Alors attends, je te coupe tout de suite. Alors regarde là en mémoire sur cette partie-là. Moi, je veux que tu m'expliques un petit peu, toi qui es au cœur des quartiers, c'est quoi? Parce qu'on idéalise, ou on rêve, ou on imagine avec BFM TV ou avec des films qu'on regarde, qu'est-ce que c'est un quartier. Quand on y est, ben finalement, c'est pas trop ce qu'on nous explique à l'extérieur, dont la plupart des votants ont accès seulement à cette information médiatique. Comment ça se passe, toi, aujourd'hui, dans les quartiers? On parle de dealers qui sont dans les halls, qui bloquent des halls, qui embêtent les personnes qui sont dedans. On parle de violence, etc. Dis-nous un peu ta réalité dans les quartiers et liée justement à ce deal de drogue et notamment de cannabis.
Donc du coup, tu ne mettras pas le thème BFM hein, derrière avec la musique qui fait peur.
Jamais, je ferai ça.
Les visages floutés. voilà, donc la réalité, pour ne pas faire d'angélisme, c'est que c'est une réalité qui est contrastée. D'abord, il n'y a pas de quartier populaire... modélisé, c'est-à-dire que chaque quartier populaire a son quotidien, a sa vie, a son histoire, a sa culture propre, sa microculture. Dans la plupart des quartiers, les gens savent qu'il y a des spots et au risque de choquer certains, les spots ou les spots de vente, ben c'est un commerce comme un autre, et c'est un employeur surtout comme un autre, peut-être même un des plus gros employeurs des quartiers populaires de Marseille et d'ailleurs.
On parle de plus de 200 familles, de 200 000 personnes qui pourraient vivre de ce marché. Est-ce que tu
as les chiffres? Il n'y a pas d'estimation, ça reste illégal. Mais en même temps, j'ai envie de dire que quand tu fais le décompte des spots, ne serait-ce que sur Marseille, je crois qu'on est bien en dessous de ce que ça peut générer comme revenu. Sachant qu'attention, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein, c'est pas le chouf ou celui qui charbonne qui va devenir. Non, ça, c'est des prolos. Hein. Ils passent la journée... dans des conditions très, très pénibles, on en revient en retraite. Est-ce qu'eux aussi auront accès à la pénibilité en termes de retraite? Je dis ça pour rigoler, mais enfin bon, voyons, on verra plus tard quand ce sera légalisé. Mais il y a les prolos et puis il y a des gens qui s'en foutent plein les poches, mais il faut vraiment faire le distinguo. Hein. Tu vis pas sur l'or quand t'es au bas de l'échelle des réseaux, hein, c'est-à-dire les choufs, les charbonneurs et... Et donc il y a des quartiers où ça se passe très mal.
On parle quand même de choufs qui prennent jusqu'à 100 euros par jour.
Je ne pense pas que ce soit la moyenne. À ma connaissance, ce n'est pas la moyenne. C'est pas la moyenne. C'est des trucs où il faut être extrêmement compétitif. Donc tu peux pas payer. Enfin, je ne connais pas de choufs qui tournent à 100 euros la journée. Je connais même des endroits où les choufs étaient payés avec des sandwichs et des poches de Capri Sun. Hein. Donc la réalité, elle est plus par là que sur les 100 euros par jour, etc. etc. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en tout cas, ce qu'il faut considérer, c'est que tous les quartiers ne se ressemblent pas. Il y a peut-être quelques quartiers où c'est extrêmement problématique, parce que surtout dans les moments où il y a des tensions entre les réseaux et où ce que les autorités appellent de façon assez obscène les règlements de compte, qui sont des assassinats en fait, où t'as des processus de tension qui se mettent en place dans ces quartiers-là où ça devient quasiment invivable pour les gens. L'occupation des halls, les caddies dans les escaliers, etc. etc. Mais sinon, par ailleurs, il faut se rappeler que c'est une activité commerciale. Illégale, certes, mais une activité commerciale. Ils ont tout intérêt à ce que les gens viennent avec un maximum de sécurité et repartent satisfaits. Tu vois, la logique, elle est là. C'est une logique capitalistique. Hein.
Mais tu as raison sur ça. Ce qui est dingue, c'est que tu le vois sur cette partie-là. Tu as même des points de fidélité. Ils font gagner des consoles, j'ai vu. Il y a des tarifs... Enfin, c'est complètement dingue, tu peux être livré à 4h du matin si tu as besoin. En fait, c'est encore plus performant que Uber Eats sur le système qui est mis en place. Tu as totalement raison et j'ai même vu passer des messages qui étaient faits par les dealers en disant « Bon voilà, on va reprendre ce hall, mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit, etc. pour que ça se passe bien pour les habitants. » Donc tu as un vrai, enfin, presque un travail d'équipe, j'allais dire là-dedans. Mais concrètement, comment aujourd'hui, quel est l'impact sur un marché, sur un quartier? Est-ce qu'il y a un impact si fort que ça, ce deal de drogue? Dans l'imaginaire collectif, voilà, tous les quartiers, il n'y a que ça de partout. Quelle est la vérité?
Non, c'est faux. C'est faux. Déjà, dans la plupart des quartiers, c'est des activités plutôt discrètes.
Discrètes.
Ah oui, plutôt discrètes. Les gens savent qu'à tel endroit, il y a un spot, etc. etc. Comme tu le disais, ils essaient de gagner la paix sociale. De la même manière que la prohibition est une forme d'hypocrisie qui mène à gagner un peu de frais, une forme de paix sociale. Et il y a des endroits où c'est compliqué, ça je peux pas le nier. Je te dis, quand il y a des processus de tension, quand il y a des phases où il y a des compétitions entre équipes pour contrôler des spots, etc., ça peut devenir très très dur. Devenir très très dur et très problématique pour la vie des habitants des quartiers. Mais je suis pas en train de faire la promotion de la vente illégale de cannabis, mais je répète encore une fois qu'eux, ils ont une activité commerciale. S'ils font ça, c'est pas parce qu'ils ont envie d'être dans l'illégalité, c'est surtout parce qu'ils veulent gagner de la thune. Je crois qu'on oublie beaucoup cette idée-là. Et s'ils veulent gagner de la thune comme ça, c'est parce que peut-être que forcément, on doit se poser la question de pourquoi il n'y a pas d'autres perspectives à leur proposer pour gagner de la thune autrement. La prospérité de cette économie parallèle est un fait avéré parce que on est dans une impasse. On est dans une impasse sociétale au niveau de ces quartiers-là. Je veux dire, quand tu es jeune, quand tu es né à la Busserine, que tu vis à la Busserine, que tu grandis à la Busserine, que tu fais tes études autour de la Busserine et que tu veux sortir de la Busserine, tu ne peux pas. Concrètement, tu ne peux pas. On t'explique souvent à BFM, CNews, alors n'en parlons pas, à CNews que c'est des quartiers dans lesquels on ne peut pas rentrer. Faux, c'est des quartiers dans lesquels on ne peut pas sortir. C'est ça la réalité sociale de notre pays actuellement. Et pour parler de l'impact, moi je voudrais aborder le côté économique, et c'est pour ça que moi je n'étais pas d'accord entre guillemets, le financement des retraites par ce biais-là, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont prioritaires là-dessus. En tout cas, à mes yeux, c'est les habitants des quartiers populaires. Tout à l'heure, je te parlais de retour au droit commun. On a un truc qui s'appelle la politique de la ville, hein, depuis Bernard Tapie, hein, depuis la deuxième mandature de Mitterrand, donc ça fait quand même plus de 40 ans, qui est quelque chose que la droite reprend à chaque fois pour taper sur la tête des habitants des quartiers populaires en disant « Ouais, mais regardez les milliards qu'on a consacrés à la rénovation de ces quartiers, etc. etc. » Il te cite l'ANRU, qui est une espèce de machin calimbrinque qui ressemble plus à une armée mexicaine qu'à quelque chose d'utile. Concrètement, hein, dans la rénovation de ces quartiers-là et dans la restructuration économique, sociale de ces quartiers-là. Et donc, on te ressort toujours, en gros, ouais, ça sert à rien de filer de la thune. La vérité, c'est que quand tu te poses au calme avec des gens qui te disent ça, genre, on va poser des additions, on va faire des soustractions, et on va voir combien ont été investis dans ces quartiers-là et combien ont été investis dans des quartiers non prioritaires. Et comme ça, on fait le... Et là, tout de suite, les gens ne veulent pas jouer le jeu parce qu'ils savent très bien que c'est des ratios de 1 à 10. Nous, on est pour que la politique de la ville, ça s'arrête à un moment donné. La solution pour que cette politique de la ville s'arrête et qu'on revienne au droit commun, c'est-à-dire que chaque centimètre carré du territoire de la République française soit considéré de la même manière, en termes de droit et en termes de devoir et en termes de droit, c'est aussi cet outil que représente la légalisation sociale. La légalisation sociale, nous, à Quartier Nord, Quartier Fort, en 2019, au moment des États généraux de Marseille, on avait proposé un fléchage fiscal. Bon, il s'avère que le fléchage fiscal en France, c'est pas comme aux États-Unis, qui fonctionnent qui ont un fonctionnement fédéral. C'est pas constitutionnel, donc on peut pas faire ça directement. Par contre, s'il y a une vraie volonté politique de changer les lois organiques, on peut consacrer une partie des bénéfices que la légalisation apportera pour la revitalisation de ces quartiers. Et une forme de souveraineté économique. Envisager qu'une partie de cet argent-là ben, nous aide à reconstruire les écoles toutes pourries qu'on a dans le quartier. Que cet argent-là aide les boursiers qui triment à McDo et qui ratent leurs études parce que c'est juste impossible de mener de front des études quand on a la tête dans la friture à McDo toute la journée. Tu vois, c'est ce que faut. Alors, tu vois, moi, je ne suis pas... comment dirais-je ? Je ne suis pas... des États-Unis. Mais force est de constater qu'ils sont quand même nettement plus libéraux et plus avancés que nous sur ces questions-là. Mmh. Avec des modèles économiques qui ne me satisfont pas complètement, mais franchement, quand tu sais que le Colorado croule sur les recettes fiscales et là, comparaison n'est pas raison, mais il faut absolument que je cite ces chiffres-là. Quand tu sais que le Colorado, en 2018, a remonté pratiquement 400 millions de dollars de recettes fiscales. Ils ne savent plus quoi en faire. Presque plus quoi en faire. Mais eux l'ont consacré à la rénovation des écoles. Et je te citais avec ce souvenir-là, comté de Pueblo, alors c'est au Colorado aussi, qui eux ont carrément doté des boursiers dans la ville de Pueblo via les bénéfices de la vente de cannabis. Donc il y a des possibilités de faire des choses bien avec cet argent-là. Il y a vraiment des possibilités de faire des choses bien avec cet argent-là. A contrario, en France, en 2018, et alors c'est là où il y a une déconnexion totale avec nos politiques et une vraie lâcheté et une vraie forme d'inconscience, quoi, parce que les types s'en vantaient. Je crois que c'est Darmanin d'ailleurs qui disait, mais oui, vous ne vous rendez pas compte, nous on a consacré 1,2 milliard à la lutte contre la drogue. Alors, je dis oui, avec quel résultat, voilà. Et il citait un autre chiffre. Alors ça, c'est le chiffre qui est dans le rapport parlementaire, mais il y a pratiquement un million d'heures consacrées par la police, la gendarmerie, les douanes, au harcèlement des usagers, des consommateurs et des vendeurs de cannabis. Non, mais franchement, t'imagines l'argent qu'on perd, le temps qu'on perd, cette espèce de tonneau des Danaïdes dans lequel on verse de l'eau qui ressort de l'autre côté à longueur d'année. Je dois dire même quelques policiers qui te prennent à part et t'expliquent qu'ils sont obligés de tenir un discours en on, mais que ouais, ils comprennent l'absurdité de ce qu'ils font en termes de dogme répressif. Je veux dire, même, c'est absurde. C'est absurde. Ces chiffres-là sont frappants. Moi, je suis content, tu vois. Parlons Cana, ça fait partie de ces outils, peut-être à mettre à la disposition. Tu me disais comment on fait, disposition en termes d'outils pédagogiques, y compris dans la formation des militants politiques. Parce que, y compris chez beaucoup de gens, la légalisation du cannabis reste un problème accessoire, alors que c'est un problème central.
Mais t'as raison. Moi, je l'ai vu sur les politiques qui se sont penchés sur la question, qu'ils sont totalement lucides sur ce genre de choses. Tu vois, tu parles de points de deal. Des fois, on communique sur « ouais, super, on a arrêté un point de deal ». Deux jours après, il est là, il revient. Et il est présent et encore plus fort, ça ne change rien.
Mais tu sais que c'est criminel.
À quel niveau?
Alors, j'utilise souvent cette image-là, qui est une image un petit peu hardcore, mais pardon de le dire, c'est que parfois, il y a des descentes de police qui ferment un spot. Non seulement il est ouvert 500 mètres plus loin dans la journée, mais en même temps, tu condamnes quasiment à mort ceux à qui tu as prélevé la résine de cannabis ou les produits, hein. Parce que ces gens-là s'endettent, mais ils ne s'endettent pas cet LM. Et leurs huissiers, eux, ne viennent pas t'envoyer des relances de paiement. Ils te relancent, mais avec des balles de Kalachnikov. Et ils le savent. Ils le savent, en réalité. Hein. Donc, ouais, il y a quand même aussi une forme de responsabilité à lever par rapport à cette problématique.
Et même pour aller plus loin, tu les mets en prison. Pour quel résultat, finalement? Puisque la prison, aujourd'hui, elles dégueulent. Et les prisonniers dorment par terre avec une grande majorité de personnes qui sont là, justement, pour du deal de drogue, notamment. Donc, pour quel résultat par la suite? Parce que tu ressors de prison, t'as pas de job, t'as pas été formé sur quoi que ce soit, et tu reviens inlassablement sur la même chose. Et encore, t'es meilleur parce que t'as pris une bonne expérience là-dessus. Et en plus, t'as croisé des personnes qui sont... Parce que c'est un concentré de délinquants qui sont particulièrement... qui deviennent de plus en plus bons.
Il y a une phrase dans une chanson d'Akhenaton. Tout à l'heure, je parlais du reggae, mais le rap aussi parle beaucoup de cannabis. Alors là, il parle pas de cannabis, mais dans une chanson d'un album solo d'Akhenaton, pour ceux qui s'appellent La Cosca, où il cite le parcours d'un criminel lié à la mafia, etc. etc. Et ce criminel, à un moment donné, il dit « Mais comment les autorités comprennent pas qu'en un an de prison ou 10 ans dehors, j'ai les mêmes connexions ?» En réalité, quand tu es en prison, à partir du moment où tu finis pas fou ou violé ou tué, tu finis par te faire un réseau 10 fois plus vite qu'à l'extérieur. En réalité, c'est l'école du crime.
Et en plus, tu as accès à tout ton dossier, donc tu sais comment tu t'es fait attraper, comment te protéger encore plus pour être... C'est une mise en danger. Moi, je définis la prison là, sur une mise en danger de la France. Quoi. Quasiment, c'est une école du crime, comme tu as dit. Et je te reviens sur un petit point, puisque j'avais parlé avec Myriam Joliot, qui est l'épisode 61, et qui était trimeuse donc de cannabis légal et aussi un peu illégal, notamment aux États-Unis. Elle a tourné pendant des années de partout et elle a vu aux États-Unis l'évolution qu'il y a eu sur les pays, enfin les lieux où ils légalisaient, l'évolution qu'il y avait. Tu parlais des routes, tu parlais des écoles, tu parlais de tout ça. Et cet apport financier qu'a créé légalement le cannabis et
elle
le changement.
Elle a parlé de Harlem peut-être.
Elle m'a parlé de plein de choses, c'est magnifique, faut que tu ailles l'écouter celui-là. Mais en gros, elle l'a vu de ses yeux. Elle arrive d'une année sur l'autre, elle dit « mais oh, je comprends pas, les routes sont plus pétées, les écoles c'était quoi, c'est nouveau ça ?» Donc dingue cette capacité qu'il y a là-dedans. Moi, ça me fait rebondir sur un point, comment tu vois la légalisation ? Aujourd'hui, il y a plein de chemins, beaucoup de pays ont tenté des chemins un peu différents, avec plus ou moins de réussite. Moi, j'ai juste pour introduction, je pense que c'est hyper important de faire quelque chose qui est lié au consommateur. C'est-à-dire que si on commence à mettre des produits qui sont loin de ce qu'ils veulent, donc on ne va pas totalement endiguer cette partie justement illégale, et ce marché illégal restera là. Mais si on arrive à avoir quelque chose d'assez pragmatique et lié à ce que souhaite le consommateur, on peut faire quelque chose d'intéressant. Comment tu la vois, cette légalisation ? J'ai une baguette magique aujourd'hui, et je te dis, allez, tu veux être ministre de quoi ? Tu veux être président ? Tu as les pouvoirs de changer quelque chose en France. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu le fais ?
Moi, je me servirais des modèles préexistants, hein, tout simplement. Moi, j'ai des modèles de prédiction. Pour moi en réalité, la légalisation... Chaque pays l'a construit en fonction de sa culture et de son histoire. Et bien sûr, le modèle français de légalisation ne sera pas le même que celui que l'Allemagne va ouvrir dans pas longtemps d'ailleurs, hein, parce qu'ils légalisent ils l'ont légalisé d'ailleurs, je crois. Hein. Je crois qu'ils l'ont légalisé. Ça a été voté. Il me semble que ça a été voté.
Ouais.
En tout cas, ils sont sur la route, comme tu dis.
Ouais.
Donc ça va se faire. Moi, mes modèles, je pense que le modèle absolu, hein, celui qui a bégayé un petit peu au départ, mais qui aujourd'hui commence à porter ses fruits, y compris en termes de régression du marché noir, etc. C'est le modèle uruguayen. Parce qu'eux, ils ont pensé le truc avec l'expérience même de Pepe Mujica, hein, effectivement, qui lui avait ce rêve-là, entre guillemets, de se servir du fait qu'il avait été emprisonné par des narcotrafiquants pour, entre guillemets, retourner le stigmate et en faire quelque chose d'ultra positif. L'histoire est belle, l'histoire est belle. Eux, ils ont bégayé parce qu'au départ, ils n'ont pas réfléchi à tout, puis surtout ils étaient parmi les premiers à le légaliser. Et ils n'ont juste pas mis en place une politique tarifaire suffisamment agressive pour faire en sorte que, de façon capitaliste, le marché noir s'effondre.
De taxes, quoi.
Il était trop cher leur truc. Donc forcément.
Et lié aux taxes, sûrement.
Sûrement. Même pas, puisqu'ils étaient partis dès le début sur une espèce de économie solidaire et sociale autour de la production, hein, locale. C'est-à-dire que là-bas, ils encouragent la production du produit. Bon, eux, ils le font passer par le biais d'une franchise octroyée aux pharmacies. Pas trop le modèle que je vois, hein, tu vois, le truc complètement sanitaire comme l'Uruguay ou comme le Portugal. C'est pas forcément le biais par lequel je vois le truc. Moi, j'aimerais qu'en France, on puisse réfléchir avec l'histoire contemporaine de produits-là, des effets qu'il a eu, et notamment dans les quartiers populaires. Hein. C'est pas une histoire de revanche, c'est pas une histoire comment dirais-je, de rattrapage, mais quelque part, oui. Tu citais, j'ai oublié son nom, la dame qui te parlait des États-Unis. L'État de New York le légalise aussi. Hein. Euh,
Oui.
et eux.
Non, en priorité en plus aux personnes qui ont déjà eu des problèmes, qui ont été arrêtées.
Qu'un casier
Bah,
judiciaire
lié à ça sans violence. Et sans
Exactement.
violence.
Mais tu sais pourquoi ils le font?
Oui, mais
Ah oui,
vas-y, je.
ils le font parce qu'ils savent très bien que statistiquement, les gens qui ont été condamnés pour possession, vente, usage de cannabis sont des Afro-Américains. Et donc, quelque part, alors eux, ils sont beaucoup dans cette considération-là. Le volet en France, c'est plus une considération sociale qu'une considération ethnique. Mais je pense qu'il faut réfléchir à des modèles qui s'apparencent à ce truc-là. Nous, on avait proposé, je te dis, le fléchage fiscal avec.
C'est quoi le fléchage fiscal?
Le fléchage fiscal, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on oblige, entre guillemets, l'État à organiser un budget dans lequel une partie des bénéfices qu'aura produit la vente de cannabis.
Mais comment tu le vois? Avant qu'on arrive à ce fléchage fiscal, comment tu le vois concrètement? Pourquoi je te dis cette question? Aujourd'hui, je te mets un contexte. T'as le marché du CBD qui est présent, qui a explosé en France. On a plus de 2000, 2500 boutiques qui sont présentes dans toute la France. Une grande majorité des personnes qui sont sur le marché du CBD, c'était des personnes qui étaient connaisseuses du produit. Je te parle du produit THC, parce qu'on parle du même cannabis, évidemment dedans, avec un taux différent entre le CBD et le THC, et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, potentiellement des anciens dealers, avec une vraie connaissance marché, une vraie connaissance produit, gérer ses équipes, gérer son appro, fidéliser ses clients, etc. Donc pour moi, les dealers aujourd'hui, c'est des formidables commerçants, des vrais businessmen. Aujourd'hui, tu as ça en place, qui est déjà là. Comment tu structures? Est-ce que tu donnes des licences? Est-ce que tu donnes en priorité des licences? Est-ce que tu injectes justement les réseaux de distribution que tu as aujourd'hui légales qui sont le CBD? Est-ce que tu donnes aux pharmacies? Est-ce qu'au contraire, c'est l'État qui doit maîtriser ça totalement de A à Z? Comment tu vois la chose concrètement?
Au départ, on était sur l'idée, je te dis, avec Quartier Nord, Quartier Fort, on avait fait cette proposition en 2019, d'abord d'un moratoire sur la pénalisation du cannabis pour pouvoir mettre en place des commissions d'études sur la conversion de l'illicite au licite. C'est-à-dire qu'en gros, on voulait effectivement mettre en place des commissions qui étudieraient les candidatures des gens qui travaillent déjà dans le truc. Donc effectivement, la conversion immédiate, entre guillemets, des spots de cannabis actuels.
Alors, comment tu vois la légalisation? Comment tu la vois concrètement avec ce que je viens de te dire sur la partie aujourd'hui, tu as 2500 boutiques qui sont présentes sur le territoire français. On a vu que c'est beaucoup d'anciens dealers qui sont venus dans ce marché légal. Aujourd'hui, beaucoup de consommateurs de CBD sont aussi consommateurs de THC. On voit bien la différence entre le CBD et le THC, même si on parle de la même plante. Concrètement, comment tu verrais, toi, la légalisation?
Moi, je crois que c'est même une des craintes principales. Moi, je doute pas qu'à terme, c'est pas dans combien de temps, hein, 1 an, 2 ans, 10 ans, il y aura une légalisation du cannabis. Ma grande crainte, c'est pas si ça va être légalisé, c'est comment ça va être légalisé. Et donc, c'est surtout sur le modèle économique qu'on choisira, hein, que mes inquiétudes a posteriori se portent. C'est-à-dire que Je vois ce qui s'est passé avec le CBD, mais on est clairement dans une forme d'entrepreneuriat hein, et d'empowerment. Et c'est pas le modèle que moi je défends. Je sais qu'il y aura des discussions, il y aura des négociations et qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra trouver des compromis. Évidemment, si la légalisation devait advenir demain après-demain, il y a des arguments très très forts sur déjà ce qui s'est fait au niveau du CBD. C'est-à-dire qu'évidemment, eux, ils sont en capacité dès demain, en un claquement de doigts, de dire bah, attendez, nous, à partir du moment où on a le droit de le vendre, on a la logistique et les points de distribution pour le faire.
Ils ont l'expertise, je rajoute, et ils ont aussi le
pas
fait.
Pas tous.
Enfin, beaucoup ont l'expertise, et aussi, il y a aussi le fait que le marché de CBD était aussi très contrôlé, très vérifié. On les a beaucoup embêtés, et ils ont prouvé. Qui ont suivi les règles qui ont été mises en place et ils se sont structurés autour d'associations aussi assez fortes et assez bien structurées.
Disons que moi ce que je crains c'est que la légalisation ne règle que le problème économique et le problème du droit. Je voudrais qu'elle règle le problème sanitaire hein, en termes de santé publique et la problématique sociale. C'est essentiel pour moi. Je veux dire, s'il n'y a pas un retour, pardon de le dire comme ça, sur des années de galère au niveau des quartiers populaires, ce sera une victoire d'où sa mère, quelque part. Hein. Donc oui, forcément.
Oui, mais tu l'as, à partir du moment où tu te dis « Bonjour, messieurs, dames, c'est open, allez-y, vous pouvez monter une boutique en ayant suivi telle formation. » Enfin,
Mais là, actuellement, tu ne l'as pas. Le modèle sur le CBD, c'est le modèle de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu ouvres ta boutique et tu vends ton truc.
Comment tu le vois sur le THC?
C'est pour ça que je te disais qu'il fallait qu'il y ait un pôle public, carrément. Hein. Là, je rejoins les parlementaires qui avaient déposé le projet de loi. Hein. Il faut qu'il y ait un pôle public qui contrôle du début à la fin, de la production jusqu'à la distribution, le truc. Bien sûr, c'est pas la tradition française. Bien sûr que moi, j'ai en tête le modèle uruguayen, que je peux aussi m'inspirer du modèle canadien, qui trouve lui aussi quand même par certaines formes.
Alors, fais-moi une réponse claire. Tu veux quoi? Des magasins? Des pharmacies? Tu veux quoi? Comment ça
non,
se passe?
Non, parce que c'est pas. Je pourrais pas te répondre sur ça directement. D'accord. Je te dis, on évolue. En fonction du débat et de la même manière que je ne veux pas commettre l'erreur que certains politiques commettent en disant « mais non, mais le cannabis, il faut juste le réprimer parce que ça n'existe pas », je sais que le CBD et sa filière existent. Et que ce que tu as dit, c'est des arguments qui vont peser dans le débat public. Bien sûr que les gens l'ont semblant. On l'expérience, on l'expertise, on la logistique, on les points de distribution, on les réseaux. Mais pour autant, je te dis, il ne faut absolument pas occulter le fait que c'est aussi un problème sanitaire et qu'il faudra que le ministère de la Santé soit au pilotage de la légalisation du cannabis. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudra...
Oui, mais le sanitaire, tu le règles. Par exemple, je te dis, sur Palancana, on a des agriculteurs aujourd'hui et tu sais la difficulté. On parle des difficultés de quartier, on parle aussi peut-être moins des agriculteurs, avec un taux de suicide qui est extrêmement élevé, avec des personnes qui gagnent 700 balles par mois, 800 balles, enfin un truc complètement dingue sur la partie sur les agriculteurs. Moi, j'ai l'agriculteur qui est passé sur Palancala, il m'a à la fin, j'avais les larmes aux yeux, j'ai envie de le prendre dans mes bras et je l'ai fait, et je l'ai serré d'ailleurs. Et on le soutient, on l'a soutenu, on continue à le soutenir d'ailleurs, cet agriculteur. Et pour te dire que les agriculteurs aujourd'hui, si on te dit vous voulez produire du cannabis légal THC, on peut le faire. On a un terroir.
Mais moi, je suis pas contre ça
français.
Du tout. Au contraire.
Et donc, hein. Tu protèges mais côté sanitaire. Tu l'as.
L'Uruguay ou même. Alors, le Canada, c'est un peu différent parce que eux, ils autorisent pas la production en grande quantité, mais en tout cas, ils t'autorisent à cultiver, je crois, 4 ou 5 plants pour ta consommation personnelle, etc. Mais oui, l'exemple de l'Uruguay nous prouve qu'on peut aussi, entre guillemets, aider et favoriser la conversion agricole de certaines productions qui ont besoin de cet apport-là. Et là, on ne parle que du cannabis avec de la THC. Mais les filières du chanvre sont extrêmement importantes. Je pense que c'est la plante la plus écolo de la planète. C'est un truc de fou. Ça n'a pas besoin d'eau. Ça aide les autres plantes à pousser, donc tu peux partir dans des processus de permaculture, etc. etc. Ça craint pas le feu. Alors, il y a une grosse partie, comment dirais-je, technologique à mettre en place pour le traitement du chanvre pour produire des fibres ou du matériel d'isolation. Mais c'est clairement une plante magique en termes de transition écologique. Non, non, moi, c'est pas les agriculteurs qui me posent problème. Le seul problème que j'ai, c'est que je veux pas que ça devienne simplement une légalisation libérale. Voilà, je le dis très clairement. Je veux pas que.
Donc tu veux que ça soit quoi, l'État qui gère ça?
L'État, en fait, c'est un pis-aller. Moi, ce que nous on prenait, mais qui n'est pas possible légalement, c'était entre guillemets de donner la possibilité aux gens qui le vendent déjà aujourd'hui de façon illicite de passer dans le licite, dans le légal, quasi immédiatement, à partir du moment où ils n'ont pas de casier judiciaire ou avec lequel tu vois des trucs style atteinte au bien, à la personne, etc. etc. Tu vois, si c'est juste comme à New York pour possession, usage cannabis, ben, c'est clairement les bons candidats. Eux ont l'expertise, eux ont déjà le réseau, eux ont déjà la clientèle et surtout, ils font vivre les gens du quartier. Et en plus de ça, tu mets en place un système fiscal où les recettes sont contrôlées et réparties de façon à ce que ce ne soit pas juste une affaire commerciale.
Mais ça, ce n'est pas antinomique avec le réseau des magasins de
CD. C'est à construire. Ouais, c'est à construire. Moi, ce que je veux, c'est ouvrir le débat, y compris avec les gens qui veulent que le CBD... Ce qu'il faut éviter, c'est peut-être aussi une des dérives du modèle canadien où tu as quand même des grosses firmes qui maintenant se sont lancées dans le truc, hein, notamment Pepsi. Hein. Tu vois, moi, ça par contre, c'est pas forcément ce qui me ferait vachement plaisir. Quoi. Nourrir les multinationales qui sont déjà gavées jusqu'aux yeux, c'est pas forcément. Par contre, si, que ce soit par le biais des filières CBD avec un contrôle étatique sur les recettes et la redistribution des bénéfices ou un truc encore plus social basé sur le modèle uruguayen, c'est la légalisation sociale que je prône parce que moi je veux absolument qu'on se serve de cet argent pour développer les quartiers populaires et les faire sortir de cette stigmatisation, de cette relégation, de cette discrimination endémique qui dure depuis 30-40 ans. C'est ça mon combat.
Je l'entends ce combat, je le vois, je le respecte et je trouve ça génial. Après, il faut penser au peuple français en général. Et évidemment, si t'es trop ciblé sur cette partie-là, il y a des parties des auditeurs, je pense, ou des votants que tu perds potentiellement en ayant cette position-là, mais tu l'assumes beaucoup. Moi, je te dis ma vision, tu vas me dire ce que t'en penses. Évidemment, on a l'historique de plusieurs pays. Évidemment, la légalisation, c'est plus un sujet. Il faut que ça vienne. Ça passera par de l'éducation, où on doit faire des débats et on doit Bien mettre sûr. Sur la table des vraies questions et qu'on prenne le temps d'en discuter. Tu vois le temps qu'on passe ensemble aujourd'hui pour en discuter sur cette partie-là. Évidemment, il faut que ça soit ouvert à tous. On a déjà des réseaux de distribution que moi je trouve extrêmement performants qui sont sur le CBD avec de l'expertise. Le marché du THC pour moi est 10 à 100 fois plus grand que le marché du CBD, donc il y a une place gigantesque et notamment avec des dealers actuels qui sont pour moi des businessmen qu'il faut intégrer dedans. J'aime beaucoup l'idée de dire vous avez un casier judiciaire lié à ça, pas de problème, welcome. Alors peut-être pas dans une discrimination positive, j'allais dire de les favoriser par rapport à d'autres, mais on leur dire voilà, dans tous les cas on vous bloquera pas, au contraire. Et ces mecs là je pense qu'ils seront très très bons dans ce marché là ils seront même meilleurs que les autres. Moi je suis plus sur un parti un peu open en disant on a des bons agriculteurs, on a des bons entrepreneurs, allez-y, passez une licence, passez une formation, on n'a pas le droit de vendre aux jeunes, on n'a pas le droit de vendre aux femmes enceintes, etc., etc. On y va, on va parler des jeunes, parce que je te rassure.
Alors Mathias, je rebondis, hein, au fil de l'eau. Mais parce qu'elle est intéressante, la discussion, parce qu'en réalité, le modèle économique, il ne faut pas croire qu'on va le poser comme ça. Tu vois, c'est au fil de ce genre de discussion, alors nous, à notre niveau, mais peut-être qu'il y aura des responsables qui vont avoir exactement les mêmes discussions. Tu me parles depuis tout à l'heure des agriculteurs, etc. Mais pourquoi on n'imagine pas ce que nous, on essaie de faire par ailleurs avec les filières de légumes, etc., etc. C'est-à-dire le raccourcissement des circuits. Hein.
Bien sûr.
Mais moi, une collaboration entre, tu sais, par exemple, à Marseille, je vais le citer, attention, avec des guillemets devant, derrière, en haut, en bas. Commencez pas à croire que je vais faire de Marseille un nouveau trench town. C'est pas du tout ça. Mais il y a un projet. La métropole veut favoriser la souveraineté alimentaire à Marseille. Et donc, en gros, coincé entre les Hauts-de-Sainte-Marthe et le massif de l'Étoile, il y a toute une zone agricole qui est en perdition complète parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs, malheureusement. Malheureusement, il n'y a plus d'agriculteurs. Ce que tu disais, c'est un constat dramatique. Alors moi, effectivement, je parle de l'endroit d'où je suis. Je vois la détresse des habitants des quartiers populaires, des jeunes, des moins jeunes. Et je sais que c'est exactement la même que celle que vivent les agriculteurs. Alors, peut-être pas au même endroit, mais on partage la même détresse. Mais cette zone agri-urbaine, comme ils l'appellent, pourquoi pas imaginer effectivement une collaboration entre des gens qui ont cette expertise dans les quartiers, des lycées professionnels de formation à ces filières hein, écologiques, et des agriculteurs qui s'installeraient là-bas. Parce que, mais ça, c'est tout à construire. Moi, je suis complètement open là-dessus. Hein. Je n'oppose absolument pas les agriculteurs aux habitants des quartiers populaires.
Hein. Mais super, mais tu vois, la problématique, elle est là. C'est-à-dire que moi, dans mon problème politique, c'est qu'on parle d'un sujet, derrière, il faut qu'on parle concrètement comment on l'établit, et après, on a un problème de timing. C'est-à-dire, on se dit, bon, là, il faut créer une filière là-dedans, il faut former des gens, il faut faire ci, il faut faire mi. Et finalement, on ne voit jamais le bout du tunnel et peut-être on le met sous la table. Je te vois, tu n'aimes pas trop ce que je viens de dire.
Non, mais... non, pas du tout. Okay. J'écoute.
Ok. Je te prends l'exemple de la Thaïlande. Tu vois, je te l'ai appris qu'ils ont légalisé il n'y a pas si longtemps. La Thaïlande, c'est un pays, tu faisais arrêter avec un joint, tu risquais des années de prison. Ah, oui. Tu vois, ils étaient en mode répressif, mais...
Mais il y a un Français qui était...
Il y en a plein, ça craint à mort. Et ils ont fait virage à 180, légalisation totale, faites-vous plaisir. Et production, vente, etc. Il y a des combien de milliers, 4000 boutiques, je crois, sur Bangkok. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Donc, explosion totale sur la Thaïlande. Et petit à petit, ils ont commencé à structurer. Bon, inscription, tu veux produire, ok, tu t'inscris là, c'est plutôt simple, c'est digital. Tu veux faire ça, c'est ça. Il y a une licence qui va arriver, qu'on va limiter. Et petit à petit, en fait, ils ont ouvert le marché parce que les prisons débordaient aussi, il y avait un gros problème par rapport à ça, et puis ça déviait aussi sur d'autres drogues comme le yaba, etc. Donc voilà, ils ont trouvé la solution, c'est on ouvre, et à partir de cette solution, ils sont en train de structurer petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, tu amènes une réponse immédiate, et après tu structures et t'organises. Je pense qu'il y a un mi-chemin à faire entre quelque chose de trop complexe qui va mettre 10 ans, et quelque chose où on a vraiment des solutions à apporter immédiatement à cette problématique en France et la solution que ça peut apporter, le changement qu'on peut avoir de toute la France. C'est un impact colossal sur l'économie, sur les jobs, sur la partie délinquance, sur plein de choses. Quand tu as un petit jeune qui voit son gars, un autre gars passer avec son S4, il dit « je veux être comme lui, pourquoi je vais aller à l'école pour faire ça ?» tu vois. Et bref, il y a plein de choses. Et si tu veux être comme lui, oui, mais lui, regarde, il a une boutique, il en a 5, il en a 6, il vend du taché parce que c'est un tueur, il est très fort. Et il gagne son pognon légalement et il peut le montrer. Au lieu que le gars légalement, il va aller en prison pour faire un petit séjour. Et finalement, même ça attire, toi, de faire ce petit séjour en prison. On a ce cercle pas vertueux. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Moi, je te réponds que, en fait, le désaccord, c'est toi qui le vois. Moi, je vois pas de désaccord entre ce que tu dis et ce que je propose. D'ailleurs, j'ai déjà répondu dans une autre présentation de mon livre à cette question, hein, de savoir comment tu vois, Mohamed, toi, là. Moi, je la vois pas. Je propose le débat et je veux qu'on la construise. Le modèle français de la légalisation, il va se construire par le débat. Je vais pas refuser ce qu'on nous refuse aujourd'hui en termes de paroles exprimées et de contradictions. Alors que moi-même j'en suis empêché depuis des années hein, le débat de cette question-là. Donc du coup le modèle français de la légalisation, on va le construire ensemble. Je crois que ce que tu as dit, c'est que toutes les paroles qu'on prononce hein, s'agissant des réseaux de distribution, s'agissant de la production agricole, s'agissant de la formation et des filières préférentielles, etc., les circuits courts, tout le reste, on le dit, ça prend 3 secondes. À faire, c'est très compliqué. Je sais très bien que l'idéal que moi j'ai dans la tête, ça se fera pas comme ça. Mais je suis suffisamment souple pour comprendre qu'il y aura des compromis. Alors, pas de la conviction, mais qu'il y aura des compromis et qu'on trouvera un chemin. On trouvera un chemin qui sera entre légalisation libérale, parce que ça, pour moi, ce serait un véritable échec, complètement libéral. Ce serait un échec. Et la légalisation sociale un petit peu plus collectiviste que moi je prône. Bien entendu que les gens qui vendent déjà du CBD vont se mettre sur les rangs. Moi j'ai entendu que les buralistes étaient déjà à lever le doigt depuis des années là-dessus. Donc tu vois, le danger vient de toutes parts. Mais en même temps, ce qu'il faut...
Ils vendent déjà les buralistes du CBD.
Oui, mais ils vendent pas de, ils vendent
pas de cannabis. Je sais pas encore.
Oui, puis, non, non, ils lèvent le doigt sur le cannabis.
Ouais, j'ai compris.
Les calculs, ils les ont fait aussi. Ne t'inquiète pas. Non, non. Regarde la frilosité qu'il y a en termes d'approche de cette question-là en France. C'est quand même un pays de fous à ce niveau-là. Hein. Regarde, ne serait-ce que sur quelque chose qu'on n'a pas abordé depuis le début, c'est le cannabis à usage thérapeutique. Mmh. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Je veux dire, il y a des milliers de publications. La littérature médicale foisonne de choses comme ça. Et on est peut-être le dernier pays à faire des petit geste sur le cannabis thérapeutique, alors que partout dans le monde, s'il y a une forme d'autorisation, de légalisation, de dépénalisation, y compris dans des régimes très très, très stricts, c'est sur cette problématique. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus compliqué que de penser que oui, parce que les gens ont déjà les filières de vente de CBD, ben forcément c'est eux qui seront les premiers candidats, ou en tout cas qui seront en pole position pour reprendre ce marché-là. Non, je crois qu'il y aura beaucoup d'acteurs et d'interlocuteurs qui rentreront dans le débat à ce moment-là. On fera avec nos spécificités, hein, nos personnalités de râleurs français, ça il faut l'assumer, de gens qui aiment bien la contradiction, et puis on trouvera un chemin. Moi je serais très heureux quand ce sera légalisé, et que effectivement il y a déjà des gens qui en vivront très bien, et que dans nos quartiers, ben ça ira beaucoup mieux socialement.
J'entends le poids social qui est dans que tu transpires.
C'est crucial. Ouais, c'est crucial.
Je l'entends et je pense qu'il est important, et beaucoup de pays l'ont fait, tu les as cités, et je pense que c'est très important de le souligner, de l'appuyer là-dedans. La problématique, on va clôturer les débats parce que j'ai encore deux autres questions, et ça fait longtemps qu'on est ensemble. La problématique, elle est vraiment sur le côté qui va mettre en place ce chemin-là. Et c'est là où on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on ne prend pas tous les acteurs autour de la table, on ne discute pas tous autour de cette table et on dit quel est le meilleur chemin en ayant les compromis évidemment, eh ben on risque de passer à côté de quelque chose et arriver potentiellement sur un échec de cette légalisation, parce qu'il est possible, hein. Demain tu bloques ça parce que tu as un gars qui a fait les hautes écoles et qui est complètement à côté de la plaque sur la partie de comment ça se passe réellement, même s'il fait semblant face à la télévision, et qui nous sort des trucs qui ont rien à voir avec le marché, personne n'ira acheter la partie légale, et on dira ah ouais, on a légalisé, ça marche pas. Oui, mais attends, ce que tu as mis en place, c'est pas lié au marché. Moi, je veux te poser une question sur ton livre que je tiens dans les mains et qui est super. De tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qui serait... Alors, tu sais que je vais mettre le lien, évidemment. Il est disponible où?
Il est disponible.
Où est-ce qu'on peut l'acheter, ce livre?
On peut le commander dans n'importe quelle librairie.
Amazon?
Non.
Pas Amazon.
On n'a pas passé de... Ça, c'est...
D'accord.
Posture militante. Donc,
d'accord. T'as un site?
Quand ils paieront mieux leurs salariés, peut-être qu'on le mettra en ligne. Mais pour l'instant, non.
Ok, intéressant.
Il n'y a pas de site. On peut le commander dans n'importe quelle librairie. Sinon, sur place, à Marseille, 51 Boulevard de la Libération... À la librairie Courtechel, édition Transit.
Oh bah super, bah génial. Ouais. Donc, parle-nous un petit peu rapidement de ce livre, parce qu'on a déjà abordé le sujet sur pas mal de points. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre dans ce livre qui nous donne envie de l'acheter et de le lire, ce livre?
Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah, ça, c'est une question piège. Je ne sais pas ce qu'on peut trouver. Ce qu'on peut trouver, c'est le parcours d'un militant. Et puis surtout, j'ai abordé ce travail avec énormément d'humilité. Hein. Il n'y a aucun argument d'autorité. Tout repose sur mon expérience. Il y a des propositions. Il y a l'ouverture au débat là-dessus. Donc en réalité, ce livre-là, il est fait pour réfléchir, pour être d'accord et surtout pour ne pas être d'accord. Tu vois, moi je veux juste qu'on monte d'un niveau en termes d'argumentaire, y compris dans la conflictualité, hein, par rapport aux détracteurs, hein, de la légalisation, à ceux qui continuent à prôner la prohibition, à dire qu'il faut continuer à réprimer, etc. etc. Ok, d'accord, expliquez-moi comment vous expliquez que pour l'instant tout ce que vous faites c'est un échec violent, un échec qu'on vit tous et toutes au quotidien. J'ai envie qu'on comprenne le chemin intellectuel, hein. C'est un essai dans la tradition des essais politiques, c'est-à-dire qu'en réalité moi j'ai des convictions et je les ai mises par écrit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argument d'autorité. Je ne parle pas en disant je suis l'expert de ceci ou je suis l'expert du cannabis ou des quartiers populaires. Absolument pas. C'est une voix parmi tant d'autres. La singularité, c'est que oui, le focus que j'ai mis, c'est cette légalisation sociale et l'aspect extrêmement important en termes de justice et d'égalité des droits que pourrait nous apporter comme outil la légalisation du cannabis. Et peut-être la particularité en termes d'écriture, c'est que je me suis autorisé un chemin de réflexion. Il y a toute une partie où j'explique en préambule que une conviction, ça sera fermé. À partir du moment où ça sera fermé, ça veut dire que on ne n'est pas écologiste, on le devient. Qu'on ne n'est pas féministe, on le devient. On ne n'est pas légaliste, je ne sais pas si on peut le dire. On le devient. Voilà comment je le suis devenu. Par le biais, effectivement, de l'apport culturel que m'a apporté le reggae, le rap. Par la claque que m'a foutu The Wire. Alors c'est une série télé, je ne sais pas si tu connais. J'invite tout le monde à regarder ce truc-là. Il y a un gars qui, au cours d'une saison, fait une expérience de légalisation micro-locale. C'est tellement bien fait, cette série. C'est la meilleure série policière de tous les temps. Et en plus, ce n'est pas qu'une série policière. Ça se passe à Baltimore, donc c'est pas chez nous. Mais voilà, tous ces apports-là s'additionnent pour dire bon voilà, moi ma conviction, elle est celle-ci à l'instant T. En 2023. Mais pour être arrivé à cette conviction-là, voilà par où je suis passé. D'ailleurs, je reprends des textes que j'avais publiés sur des blogs, notamment parce que j'ai un blog sur Mediapart, depuis pratiquement 2009. Donc tu vois, ça retrace le cheminement avec parfois des allers-retours hein, sur des idées, sur des choses qui me semblaient pertinentes. Tu vois, là, je vais ressortir de la discussion que j'ai eue avec toi. Avec peut-être un truc que je refusais d'appréhender, c'est-à-dire la possibilité que oui, il va falloir se mettre autour de la table avant de poser un projet ou de se voir poser un projet tout ficelé, parce que ça c'est un autre danger. Donc voilà, c'est en toute humilité que j'ai fait ce petit essai. Et si je gagne quelque chose, c'est quand les gens vont me dire « Ouais, Mohamed, j'ai lu ton livre, c'est là où j'ai gagné. Je ne suis pas d'accord. » Ou je suis d'accord, peu importe. Mais en tout cas, j'ai un avis sur ton livre. Voilà, c'est en toute humilité que j'ai fait ce truc-là.
Donc un peu plus de, tu dis un petit livre, mais un peu plus de 121 pages. On va mettre le lien dedans. Donc Mohamed Ben Sada, Legalisit, pour une légalisation sociale du cannabis et de ses usages, avec un appui social très important, on le sent depuis tout à l'heure. On va arriver à la fin de cet épisode, mais tu sais qu'à chaque fois que je fais un interview comme ça, et encore plus avec toi aujourd'hui, là, moi j'ai adoré ce moment qu'on a passé ensemble, je demande,
pareil pour moi.
Merci, je demande d'avoir un petit moment inspirant. C'est-à-dire une phrase inspirante, quelque chose qui nous laisse à réfléchir pendant quelques minutes, quelques heures sur une question ou sur un sujet. Alors vas-y, je te laisse.
C'est la question piège. Depuis tout à l'heure, elle me tourne dans la tête pour essayer de trouver quelque chose d'intelligent, machin. Je vais piocher dans mes références culturelles. Hein. Je vais te citer juste une phrase d'une chanson de Bob Marley, peut-être pas la plus connue, qui s'appelle Jump Liabungi. Et justement, il parle de la ganja, donc du cannabis, en disant Jack created not for loose. Voilà, tout simplement. Si cette herbe existe, c'est pas pour qu'elle soit gaspillée. Point. La réalité, elle est là.
Intéressant. Eh bien, écoute, on reste sur ça. Merci beaucoup, Mohamed.
Merci à toi.
Très heureux d'avoir discuté avec toi sur ça, sur ce sujet-là qui a fait couler beaucoup d'encre, et très heureux d'avoir fait connaissance un peu plus avec ta personnalité. On te réinvitera bien sûr sur Parlons Cana, et je te souhaite beaucoup de courage pour la suite, sur tes combats politiques et sur tout ce que tu vas faire, et j'invite bien sûr tous les auditeurs à lire ton livre, Mohamed Ben Sada, Legalisit. Merci, Mohamed.
Merci.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.